J'ai à cœur ce matin de vous parler d'un sujet, qui est inépuisable. Enfin, il me semble. Hein. Il est dans la parole de Dieu, voilà, vous allez me dire. Dans la parole de Dieu, je ne sais pas si on arrivera à l'épuiser, je ne crois pas. Hein. Ce sujet, c'est la foi. Et je sais que je ne pourrais pas tout vous dire, si c'était, il faudrait des mois, hein, pour parler de la foi. Il y a tellement de choses à dire. Et vous allez voir de quelle manière le Seigneur a interpellé mon cœur à ce sujet. Je me suis posé une question. Excusez-moi. Ah oui, il y a une pendule là. Elle est à l'heure, hein? Ouais, ça va. Voilà. Je me suis posé une question personnellement et vous allez voir que je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne question. Je me suis dit, est-ce que la foi, en fait, est arrivée avec la dispensation de la grâce, c'est-à-dire au moment où le Seigneur Jésus est venu sur terre. Et je vais vous dire pourquoi je me suis posé cette question. Bien sûr que c'était pas une bonne question parce que la parole de Dieu me montre que non, et c'est ce que l'on va voir. Mais c'est que, au temps de Jésus-Christ, la tradition avait pris une importance extraordinaire. C'était un carcan plein de préceptes, d'obligations. Et c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent le Seigneur Jésus se heurtait avec les religieux, hein, de son temps. Cette tradition, elle encadre la vie religieuse et elle empêche toute l'expression de la foi. Et on le voit très clairement dans les évangiles, puisqu'il nous est dit à un moment donné, on va pas le lire, je vais juste vous le citer, je vous dirai quand on lira les passages dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 6, il est dit que Jésus retourne à Nazareth, dans sa patrie, et que là, il ne put faire aucun miracle, parce qu'il s'étonnait de leur incrédulité. C'était pourtant le peuple élu, hein, et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Et ailleurs, dans un autre évangile, où c'est relaté d'ailleurs dans plusieurs, mais dans celui de Matthieu, en tout cas au chapitre 8, on connaît la supplique de ce centenier romain qui vient au pied de Jésus et qui lui dit « Dis un mot pour mon serviteur qui est paralysé, qui est souffrant. » Dit un mot et il sera guéri. Et alors Jésus dit, je viendrai et je le guérirai. Et cet homme de répondre, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est un centenier romain qui parle. Elle dit, moi je suis un supérieur, j'ai des ouvriers, des hommes sous mes ordres. Et je donne des ordres, ils obéissent. Et il nous a dit quelque chose d'extraordinaire, ça a le mérite d'être relevé quand même, c'est que Jésus l'admira. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, a admiré cet homme. Et il a fait une réflexion qui montre dans quelle époque on se trouve. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc c'est bien pour dire que de ce temps-là, quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il n'a pas trouvé la foi parmi les Israélites, parmi le peuple de Dieu. Et bon, comme je vous le disais, ce n'était pas une bonne question, mais en fait, ça m'a permis de réfléchir et dans mes lectures quotidiennes de venir à l'origine de la foi. La foi, nous voyons dans le livre des Hébreux qu'elle vient de loin. Mais avant d'en arriver là, alors j'ai bien été attentif, vous savez, ce matin, quand on a la responsabilité de partager le conseil de Dieu, on écoute. Moi, j'écoute bien les prières, les louanges. Et j'ai l'impression, je vous l'ai dit, c'est un sujet tellement vaste, et j'ai l'impression que je vais pas vous apprendre quelque chose ce matin, mais comme vous, je veux écouter la parole de Dieu, parce que tout au long de ma vie, j'ai besoin de l'entendre et de la réentendre. Et on en a besoin. Et nous, moi, je l'ai entendu pour les premières fois. J'étais jeune, comme quelques-uns d'entre vous. J'étais un enfant, Et les années ont passé et je me rends compte que j'ai toujours autant besoin de l'entendre. Et encore plus peut-être. Certainement. Alors, cette fois, j'aimerais déjà qu'on aille dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 5 pour voir ce que nous dit Paul. Vous savez, on entend de tout aujourd'hui. On est dans un monde où il y a un amalgame de tout. C'est vraiment le siècle de la confusion. Que ce soit, je dirais, peut-être dans les milieux chrétiens, mais que ce soit à plus forte raison dans les médias, on entend de tout et on a besoin de savoir trier et de faire attention à ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Je ne vais pas m'arrêter sur tout ce texte, hein, parce que c'est pas le sujet de ce matin, mais j'ai voulu le lire pour que l'on voit qu'il y ait tout ce que nous décrit ici l'apôtre Paul, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Esprit, donc une seule foi. Je lisais dans cette petite brochure que j'aime bien, hein, que je reçois à la maison et que sûrement plusieurs connaissent, qui nous parle de la persécution dans le monde entier. Je lisais que dans ce pays, les personnes qui se convertissent au christianisme font face à une opposition sérieuse, souvent violente, de leurs proches lorsque ceux-ci découvrent leur nouvelle foi. Et je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait juste ce qui est écrit là, parce que ce n'est pas une nouvelle foi. Nous avons lu, il y a une seule foi. Et c'est vrai que ça peut paraître très prétentieux. Peut-être pour quelqu'un ce matin, je ne sais pas, je vous ai dit, je connais très peu parmi vous, donc ça peut paraître très prétentieux de dire que nous connaissons la seule vraie foi. Et qu'il n'y a qu'une seule foi. On entend parler de la foi catholique, de la foi protestante, de la foi musulmane, de la foi chrétienne, mais c'est faux. C'est faux. La parole de Dieu nous dit, il y a une seule foi. Et ce n'est pas notre foi, à nous. Mais c'est la foi que nous trouvons au travers de la parole de Dieu. Il y a donc une seule foi. Et cette foi, vous l'avez exprimée dans vos louanges, c'est la foi dans le Seigneur Jésus. C'est vrai, c'est la foi dans ce Dieu tout-puissant, créateur, on l'a entendu. On va en reparler. Par contre, c'est vrai que un peu plus tard, un peu plus loin, je veux dire, dans un autre article, parce que je dénigre pas la petite fiche, là, pas du tout, hein. Mais j'ai l'impression de me trouver dans Hébreux chapitre 11 lorsque je lis que les migrants chrétiens et les réfugiés en Libye sont particulièrement exposés au risque d'abus de la part des groupes armés qui imposent leur propre interprétation de la loi islamique. Des ressortissants du Nigeria, d'Érythrée, d'Éthiopie et d'Égypte ont été harcelés, enlevés, torturés ou tués à cause de leur foi chrétienne. Nous le savons, hein. Et on a l'impression que, quand on lit ces choses-là, qu'on est dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où il nous est parlé de toutes ces souffrances que des hommes et des femmes ont endurées à cause de leur foi au Seigneur Jésus. Donc, il y a une seule foi et il y a un seul Seigneur. On a lu un seul Dieu. Et ça, j'ai réalisé, je le savais, mais que c'était important de le dire. Parce qu'on entend aussi, vous l'avez certainement entendu comme moi, et surtout dans les médias, il y a le Dieu des musulmans, il y a le Dieu des chrétiens, mais c'est faux. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et c'est celui, je crois, que nous avons trouvé par sa grâce. Par sa grâce uniquement, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons rencontré le vrai Dieu, le seul Dieu. On pourrait parler, je vous ai parlé de la foi ou du Dieu, comme disent les médias, des musulmans. Si on parlait des Indiens, alors eux, c'est pas un Dieu qu'ils ont, c'est des centaines de dieux. Mais la parole de Dieu nous dit, il y a donc une seule foi et un seul Dieu. Donc, cette foi, elle vient de loin. Oui, et avant d'aller plus loin, cette foi, c'est celle qui nous est décrite, donc, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Parce qu'avoir la foi, pourquoi ? Quand on entend parler de toutes ces différences, les gens ne comprennent pas, il n'y a pas forcément du... où il peut y avoir du respect pour tout ça. Il y a des gens qui ont du respect, d'autres non, bien sûr, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi il peut y avoir plusieurs dieux, pourquoi il peut y avoir plusieurs fois à leurs yeux. Mais que nous est-il dit dans Hébreux chapitre 10 et au verset 37 ? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi ou par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Hein, le but, il est là. La foi, c'est pas la foi pour ici-bas. La parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi pour ici-bas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En fait, nous n'avons rien compris. Si nous réclamons et si nous demandons à Dieu des bénédictions que pour ici-bas, nous n'avons pas compris. La foi, c'est pour sauver notre âme. Alléluia. Et je suis convaincu que pour sûrement la majorité d'entre nous, ce matin, c'est ce que nous avons compris. La foi pour que notre âme soit sauvée. Alors, on était dans le chapitre 10. Ah, j'ai perdu ma page, moi. Et dans le chapitre 11, donc, vous savez, comme moi, que c'est le chapitre extraordinaire qui traite de la foi. Et c'est là que on va s'apercevoir. Alors, excusez-moi, j'ai un peu modifié mes notes. Voilà. Et on va s'apercevoir que il nous est parlé dès le début, dès le commencement, de la foi de Abel, de la foi de Hénoc, qui fut enlevé parce qu'il a été agréable à Dieu. Et je vous rappelle que quand même, c'est ce qui doit nous arriver, hein. D'ailleurs, même quand le Seigneur, et ça j'aime le dire, parce que c'est vrai, on le réalise pas toujours, même si quand le Seigneur va revenir sur les nuées du ciel pour prendre les siens, pour prendre son Église, même si à ce moment-là, je suis mort, peut-être je serai mort d'un accident, de maladie, je ne sais pas, de vieillesse, je ne suis pas sûr ça, hein, enfin bon, ça je ne peux pas le dire. Hein. Mais même si je suis mort, eh bien je partirai avec vous si vous êtes vivant. Parce que la parole de Dieu me dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et tous ensemble, nous serons enlevés, comme Hénoc. Pourquoi ? Parce que nous aurons été agréables à Dieu. Parce que nous aurons eu foi dans sa parole et dans son retour. Donc Noé a eu la foi aussi. Il a construit cette arche. Et puis, je ne veux pas m'attarder sur tout cela, mais je veux m'attarder sur Abraham. Abraham, dont il nous est dit, et j'aimerais le lire avec vous, dans l'Épître aux Romains, qu'il est le père des croyants, le père de la foi. Abraham. Romains chapitre 4. Et... Alors, je ne voudrais pas être trop long. Si on va le lire, on va lire à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, plusieurs fois dans ce passage, il nous est dit que Abraham est notre père. Pas notre père dans le sens où Dieu est notre père, bien sûr, mais il est le précurseur de la foi. Dans l'appel que Dieu lui a adressé, et on va le lire tout à l'heure, on va y venir, dans la Genèse au chapitre 12, il est dit, Dieu dit à Abraham au verset 2, « Tu seras une source de bénédiction ». Dans une autre version, celle du rabbinat, et il est dit, « Tu seras un type de bénédiction », c'est-à-dire un modèle, tu seras une référence. Et c'est en cela que Abraham est notre père, qu'il est le père de la foi, le père des croyants. Donc, j'aimerais lire, et je voudrais simplement m'arrêter ce matin, sur l'appel qui a été adressé à Abraham, c'est-à-dire au commencement de celui qui est nommé comme la référence de la foi. Donc, au chapitre 12 et au verset 1er, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. » Selon les versions, c'est de ton lieu natal, de ta parenté, de la maison paternelle, de ta famille. Et j'aimerais m'arrêter pendant quelques minutes sur ce que Dieu demande ici à Abraham. Je sais que vous n'ignorez pas ces choses, mais je suis certain qu'on a besoin de les entendre. Parce que j'ai écrit un peu plus loin, je sais pas où, mais la marche, on la trouve longue parfois. Et on a besoin de tenir ferme. Abraham va donc quitter son pays. Il va quitter, alors, voilà, j'ai demandé qu'on m'affiche une carte. Voilà, si on peut le faire, s'il vous plaît. Voilà, donc Abraham se trouve de ce côté, à Ur, en Chaldée, hein, et il doit se rendre vers ici, en Canaan. La marche ne peut pas faire ça, c'est le grand désert ici. Donc la marche que va faire Abraham, c'est celle-ci. Il va passer par ici, c'est Charan, on va en reparler, où il va rester un moment, et après il va arriver ici, donc au pays de Canaan. Donc on s'aperçoit que c'est pas à côté. Hein. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer cette carte, parce que ça aide un peu à réaliser ce qui s'est passé. Donc Abraham il va quitter Ur, cette grande cité qui est une cité prospère, une cité riche. Et j'ai vu ça dans le dictionnaire biblique. C'est un des sites les mieux connus de la Babylonie du Sud. L'archéologie a fait des découvertes extraordinaires et donc c'est quelque chose, c'est pas des approximations. L'archéologie a bien démontré que c'était une cité vraiment prospère et on vivait dans des maisons, pas sous des tentes. On a l'impression qu'Abraham c'était un nomade, mais au départ c'était pas un nomade. Il vivait dans cette grande cité, dans de grandes maisons. Et Dieu a dit, quitte ton pays. Pourquoi, des fois on pourrait se demander pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Mais il y avait sûrement des gens, c'est pas grave, hein, on a vu la carte, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus près du pays de Canaan. Mais il a choisi Abraham. Et je pense que on a besoin de réaliser et de comprendre, et peut-être pour quelqu'un qui ce matin s'approcherait de la foi de Dieu, du Dieu unique, on est tellement attaché par notre nature à ce que l'on vit. On est tellement attaché à notre pays, à notre patrie, à notre famille. Et Dieu, en quelque sorte, va dire à Abraham, mais quitte ton pays, tes origines. Là, ce pays où tu vis, ce pays où tu es né, il faut que tu le quittes. On a été appelé par la parole de Dieu à naître de nouveau, Hein, vous savez ce que Jésus dit à Nicodème. Et pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir. Il faut mourir à soi-même. Et il faut mourir bien souvent à tout notre passé, à tout ce qui nous retient en fait, tout ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Et de la ville dure, donc, de cette ville qui était complètement à droite, Abraham va se rendre en Canaan, mais il va s'arrêter, comme je vous le disais, il va s'arrêter longuement dans la ville de Charan. En fait, jusqu'à la mort de son père. Il va s'arrêter là. Ça nous montre que Abraham, c'était, et c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, c'est pas un conte de fées, la parole de Dieu. Abraham, c'était un homme de la même nature que nous. Les deux distances à peu près entre Ur, Charan et Charan, le pays de Canaan, c'était à peu près 900 kilomètres chaque fois. Deux fois 900 kilomètres. Donc, c'était pas rien quand même, hein. Il n'y avait pas les moyens de locomotion d'aujourd'hui. C'est loin 900 kilomètres. Et c'est ce que je vous disais, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous parle là. Vous savez, le royaume de Dieu, ce royaume dans lequel le Seigneur nous a appelés et vers lequel il nous conduit, il est à des milliards d'années-lumière de ce que nous connaissons ici-bas, du royaume des hommes, de ce que les hommes peuvent établir sur la terre. Le royaume de Dieu, ça n'a rien de comparable. Et il nous a appelés par la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, il y a plein de choses, je me dis souvent, mais Seigneur, je peux rien expliquer, c'est pas possible. Même si j'en suis loin, c'est comme ça. Mais même si j'avais un cerveau à plusieurs étages, mais je pourrais pas expliquer. Et je dirais que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est venu nous chercher quand nous étions tellement loin de lui, comme Abraham. Là, on parle d'une manière physique. Mais d'une manière spirituelle, le Seigneur est venu nous chercher alors que nous étions loin, mais d'une manière différente les uns des autres, enfouis dans le péché, dans la méchanceté, dans le mensonge peut-être, dans la folie, pour certains, dans la solitude, dans une solitude tellement profonde que c'était quelque chose de terrible pour nous. Et on était tellement loin de Dieu. Mais quelle était notre situation ? On était loin, mais Dieu nous a appelés aussi loin que nous étions. Et nous sommes venus après lui par la foi. Mais, comme je vous le disais, la marche, elle est longue. Et pour Abraham, c'était long. Et la marche avec Dieu, c'est pas un tapis roulant, hein. Moi, je me souviens quand les premiers tapis roulants que j'ai découverts quand j'étais jeune, on aimait ça, les enfants, hein. On se cassait un peu la figure dessus quand on arrivait au bout. Mais c'est pas ça, la marche. La marche avec Dieu où, ça y est, une fois qu'on a pris cet engagement, qu'on aime Dieu, c'est vrai, ben, on est sur un tapis roulant et puis, on se laisse porter. Non. C'est une marche. C'est la marche de la foi. Et vous savez que, quand on lit, on l'a pas lu, peut-être ça a été projeté, je ne sais pas, l'appel de Dieu dans le chapitre 12 de la Genèse, c'est à Charan que Dieu lui parle. Mais on s'aperçoit, dans le Nouveau Testament, et là, on est dans les Actes des Apôtres, que l'appel avait déjà retenti à Ur. Actes des Apôtres, chapitre 7, et verset 2. Il est question ici du discours d'Étienne. Et voilà ce que dit Étienne alors on lui demande raison de sa foi. Homme frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Voilà. Donc, l'appel avait déjà retenti à Ur. C'est ce qu'on avait vu, mais c'est pas ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. On le découvre dans le livre des Actes des Apôtres. Et je souligne ce fait parce que Dieu n'avait pas dit à Abraham de partir et de s'arrêter. Et dans la marche de la foi, il arrive parfois qu'on s'arrête. Et qu'on s'arrête parce qu'on trouve que c'est difficile. Bien entendu, ce matin aussi, c'est vrai. Le Seigneur nous a dit que le chemin sur lequel il nous a appelés, il est étroit. Il est pas spacieux, c'est pas un chemin facile. Et parfois on s'arrête. Et on pourrait dire, mais moi j'arrive pas, j'y arriverai jamais. Je suis surpris parfois de, je pense à une personne, mais c'est pas une critique. Ça, je l'encourage, au contraire, je l'encourage, parce que c'est une personne d'un certain âge. Et souvent elle se dévalorise et elle dit, mais et moi je comprends pas la parole de Dieu et j'y arrive pas et je sais pas, mais je pense qu'elle se pose beaucoup de questions. Vous savez, on est tous faillibles. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et personne ne peut dire, mais moi je n'y arriverai pas. Et moi je suis trop faible. Et c'est pour ça que je me suis arrêté. Et je voudrais te dire ce matin, peut-être tu t'es arrêté comme Abraham. Tu t'es arrêté à 40. Depuis combien de temps? Le Seigneur te dit que il faut que tu reprennes la route. Il faut que tu repartes. Parce que cette foi, c'est pas la foi pour ici-bas, c'est la foi pour sauver ton âme. Alléluia. Et il faut tenir bon. Dans Hébreux, au chapitre, toujours ce fameux chapitre 11, et au verset 8, il nous est dit que Abraham partit sans savoir où il allait. Il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous, on lit ça d'une manière, c'est facile à lire, hein? Et c'est quand même extraordinaire ce qu'a fait Abraham. Dans le pays que je te montrerai. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, mais et nous? Est-ce que nous savons où nous allons? Vous allez me dire oui, bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le royaume de Dieu, il est à des milliards d'années-lumière de ce que nous connaissons. Et quand on lit, par exemple, la description de Jean, de ce qu'il a vu dans le livre de l'Apocalypse, vous remarquerez que souvent il dit « c'était comme même Jésus, le Fils de l'homme, il ressemblait à… » C'était comme… C'était tellement difficile à décrire que Jean lui-même ne savait pas le décrire. Et dans ce sens, est-ce que nous savons où nous allons? Dans ce sens, nous sommes comme Abraham. Est-ce que nous savons aussi toutes les péripéties de la vie par lesquelles nous allons passer? Ou avec le recul, nous pouvons dire aujourd'hui que nous ne savions pas que lorsque nous avons suivi le Seigneur par la foi, lorsque nous lui avons emboîté le pas, on allait passer par telle ou telle difficulté, telle épreuve. On ne le savait pas non plus, comme Abraham. Mais c'est ça la marche de la foi. Et le Seigneur est fidèle. Il veut nous conduire jusque dans l'éternité. Alléluia. Quitte ton pays, quitte ta patrie, lui dit l'Éternel. Je suis allé voir le dictionnaire, même si je connais le mot, bien sûr, le mot patrie, mais je vais vous donner la définition. C'est la communauté d'individus liés par un sentiment d'appartenance à une même collectivité. C'est-à-dire ce sentiment d'appartenance à une culture, à une langue. Hein, c'est normal, c'est quelque chose de logique. Et on s'aperçoit d'ailleurs quand on voit quelquefois certains reportages à la télé qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires, hein, à cause de leur sentiment de patriote. Ils sont capables de se donner du temps, de leur argent pour entretenir la mémoire de leur patrimoine culturel et autres. Enfin, il y a des gens qui font, hein, qui se donnent de cette manière. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. C'est pas pour rien que Dieu a dit, quitte ta patrie. C'est pas pour rien. Et toujours dans Hébreux, au chapitre donc toujours 11 et au verset 10, il nous est dit que Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Regardez au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Et ça, c'est difficile. Moi, je dirais que c'est difficile pour nous, chrétiens de l'Occident. Peut-être plus que dans beaucoup de pays où les gens sont tellement démunis, où ils ont le nécessaire. Ils se posent la question de savoir si demain ils auront à manger. Nous, on se pose la question de savoir si on va pouvoir partir en vacances, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va aller s'amuser, ou enfin, c'est, en règle générale, c'est pas du tout les mêmes besoins, entre guillemets d'ailleurs, hein, si on peut parler de besoins. Donc pour nous, c'est difficile, parce que cette société dans laquelle nous vivons, elle fait que nous nous attachons à ces choses. Nous avons tendance à nous attacher à ce qui passe, à ce qui peut satisfaire notre chair, notre nature humaine, mais pas notre cœur, pas notre esprit. Et ça, c'est difficile. Et j'aimerais vous amener dans... Donc, nous devons, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, mais nous devons être comme ces héros de la foi, c'est chercher cette patrie, l'avoir en vue, ne pas nous attacher aux choses d'ici-bas. Moi, je dis merci Seigneur si... Tous les jours, je crois. On peut pas faire autrement. Tous les jours, je dis merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour les biens qu'il m'accorde ici-bas. Mais je ne veux pas m'attacher à tout cela. Je sais que tout cela passera. Et le Seigneur me dit que là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Et je veux que mon cœur ne soit pas dans, entre guillemets, dans mes richesses. Mes richesses, parce que je considère que par rapport à beaucoup, dans le monde, je fais partie des riches. Même si dans mon pays, je ne fais pas partie des riches. Mais par rapport à la parole de Dieu, je crois que j'en fais partie, malgré tout. Mais je ne veux pas que mon cœur s'attache à cela. Je veux que mon cœur s'attache à cette patrie qui est là-haut, vers laquelle je vais. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Et verset 35, peut-être. Je ne sais pas si on va tout lire. On va aller un peu plus loin. On va aller au verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui était spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous portons l'image du terrestre. C'est-à-dire que tant que nous sommes ici-bas, nous portons l'image d'Adam, l'image de l'homme, hein. Mais alors nous porterons l'image du céleste, l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous avez vu cette description de ce qui est corruptible, nous passons à ce qui est incorruptible, de ce qui est méprisable, nous passons à ce qui est glorieux, infirme, plein de force, naturel, corps spirituel. Notre patrie à nous, c'est celle-ci. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier ces choses, hein. Cette société, je le rappelle, tend à nous le faire oublier. Et dans la deuxième aux Corinthiens, il nous est dit que nous sommes dans une tente. Comme Abraham, au départ, il était dans sa maison, il était bien établi, bien installé. Mais après, il est devenu voyageur, étranger. Il est parti dans un pays où il s'est retrouvé étranger. Et il a vécu sous des tentes, effectivement. Et l'apôtre Paul nous dit que nous sommes loin de notre patrie, mais nous marchons par la foi. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 9. Je vous cite juste la référence. Et je vais quand même vous citer ce verset parce qu'il est important. Et j'ai marqué la sermon note, est-ce que c'est vrai ? Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà ce que dit Paul. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Moi, je dis amen. Peut-être les jeunes, vous dites, oh, mais lui, maintenant, il est plus jeune, alors. C'est pour ça qu'il dit ça. Moi, j'ai envie de faire ma vie. Eh oui, que vous soyez jeune ou pas, notre espérance, elle est là-haut. Notre patrie est là-haut. Que le Seigneur soit béni. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ça peut sembler peut-être encore plus dur, plus difficile. Et je voudrais dire tout de suite que le Seigneur, en appelant Abraham et en nous appelant, ne nous a pas appelés à vivre dans une secte. Ouais, non, mais je préfère le signaler tout de suite, hein. Je le sais, je crois que vous le savez. Mais je vous dis, je vous connais pas tous, hein. Donc, il nous a pas appelés à vivre dans une secte, à tourner le dos à notre famille. Non, non. C'est pas ce que Dieu a demandé. Mais pourtant, Abraham n'a pas obéi parfaitement. Le père de la foi. Il est parti. Il s'est établi à Charan. Son père est mort. Et quand il repart de Charan, il repart avec Lot. Mais c'est pas ce qu'aurait dû faire Abraham. Ni la première fois d'ailleurs. Vous allez me dire, mais c'est difficile ça. Mais c'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Il lui avait dit, quitte ta famille. Et il y a là un sens important pour nous aujourd'hui, un sens spirituel important. J'aimerais juste vous rappeler que Lot est parti avec lui, qu'il a pris son neveu sous sa protection, mais ça paraissait quelque chose de légitime et de très bien. Son père était mort. Donc, en soi, c'était quelque chose de bien. Mais Dieu n'avait pas demandé cela. Et vous savez que Lot, ce sera pour Abraham, excusez-moi si je voudrais pas vous choquer, mais ça sera presque comme un boulet pour lui. Parce qu'il va y avoir tout un tas de difficultés, il va y avoir ces disputes entre les bergers, ils vont se séparer. Et puis, Lot va être enlevé. Vous savez, à un moment donné, il y a ce fameux roi, Ker Dolaomer, je crois, qui va venir, qui va faire la guerre au roi de Sodome et de Gomorre, qui va emporter Lot et sa famille. Et Abraham va armer ses gens, il va aller délivrer son neveu Lot. Et puis après, il va y avoir encore la décision de Dieu de détruire Sodome et Gomorre. Et Abraham va intercéder, particulièrement pour son neveu Lot. Donc, on voit là que Abraham, tout père de la foi qu'il est, eh bien, il était de la même nature que nous. Et il n'a pas obéi parfaitement. Et vous savez, je crois qu'il nous faut comprendre ces paroles du Seigneur qui dit que je ne suis pas venu, apporter la paix, mais l'épée dans les familles. Et parfois, peut-être dans nos pays, dans notre pays, on peut le vivre, mais moins que dans d'autres, c'est certain. Mais ça crée des dissensions, ça crée des divisions quand on se tourne vers Jésus. Quand la foi est dans notre cœur, quand on a rencontré Jésus, qu'on est convaincu qu'il nous a pardonné de nos péchés, mais on ne peut pas, vous le savez comme moi, on ne peut pas s'en détourner, on ne peut pas revenir en arrière, mais ça crée des difficultés. Forcément. Ça crée de l'incompréhension. Et le Seigneur dira quelque chose qui est dur, mais qui peut sembler dur, encore une fois, mais il dira celui qui aime son père, sa mère, ou ses enfants, ou sa famille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et en cela, je crois que je peux dire cette chose, c'est que la grâce, on parlait tout à l'heure de la foi, la grâce et la loi, mais la grâce, vous savez, elle est exigeante. Elle est plus exigeante que ce qu'on croit. La grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a prononcé ces paroles. Et je me dis parfois, on pleure peut-être, on gémit, parce qu'on dit on n'a pas de famille. Ça se peut, ça se peut. Et je respecte tout à fait, et même je peux compatir. Si quelqu'un ici, parmi nous ce matin, pourrait dire « mais moi je n'ai pas de famille ». Justement, j'ai quitté peut-être mon pays, j'ai vécu des choses horribles, affreuses, je me retrouve seul, et je n'ai pas de famille, et c'est lourd pour moi, c'est difficile, ou j'ai perdu mes parents, ou j'ai perdu mes enfants, enfin, tout peut arriver. Mais, même si tu as vécu ces choses-là, et que tu as la foi dans le Seigneur Jésus, tu as rencontré une famille extraordinaire. C'est la famille de Dieu. Et dans cette famille, c'est Dieu lui-même qui est ton Père. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Et puis, on peut voir l'inverse. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne se décident pas parce que justement, il y a la famille. Vous voyez, on y a tous les cas de figure. Et c'est peut-être la famille qui te retient. Tu voudrais, tu sens que c'est la vérité, que... Vous savez, je pense à ce jeune homme qui n'a pas voulu écouter ce que Jésus lui demandait. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Qu'est-ce qui te retient? Peut-être c'est ta famille aussi. Et ce que je voudrais dire ce matin, et ça c'est important, on a besoin de le comprendre, quand on est jeune, je dirais qu'on a besoin de le comprendre, ou qu'on est nouveau, qu'on vient à l'Évangile. La foi, c'est quelque chose de strictement personnel. Dieu a parlé à Abraham. Il n'a pas appelé son voisin, il n'a pas appelé sa femme, il n'a pas appelé son neveu. Il a dit à Abraham, quitte ta famille. Il a appelé Abraham à faire un pas de foi extraordinaire. Et cette marche dans la foi, c'est pour ça que je veux m'arrêter ce matin à ce début. Cette marche par la foi à laquelle Dieu nous appelle, elle nous concerne personnellement. Ça ne veut pas dire que, justement, on doit vivre notre foi tout seul. D'ailleurs, si je peux vous dire cela, je peux vous le dire ce matin en toute quiétude, comme certains le pensent aujourd'hui, devant mon ordinateur, parce que c'est facile. Moi, je vis ma foi tout seul, devant mon ordinateur. Voilà. Il y a de quoi écouter des messages, beaucoup plus qu'on pourra en écouter chaque dimanche matin. Mais c'est pas ça. Le Seigneur ne nous demande pas de faire ces choses-là, de désobéir en fait à ses conseils, à sa parole. Mais la foi, cette marche avec lui, elle nous concerne. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ce ne sont pas mes parents ou mes enfants ou mes amis qui doivent me retenir dans mon élan pour Dieu. Non, personne ne doit me retenir. Le salut, il est en Jésus-Christ et en lui seul. Et ce salut, il est personnel. Et comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, la foi que j'ai, c'est la foi en Jésus-Christ qui m'a pardonné, qui m'a lavé de mes péchés et qui m'a donné la vie éternelle. Et ça, ça me concerne à moi, personnellement. Alléluia. Lorsque... Une dernière chose avant de voir un dernier point. Lorsqu'Abraham quitte Ur, on a dit en introduction que c'était une grande cité bien établie, mais c'était aussi un lieu de... Alors c'est pareil, j'ai trouvé ça dans mon dictionnaire biblique. C'est un lieu où il y a une religion qui apparaît à la fois très complexe et très évoluée. Il y a un mélange de Dieu du monde, de divinité astrale, de Dieu, des dieux de la nature. Il y a toutes sortes de dieux, il y a de la magie, de l'astrologie, de la divination. Enfin, c'est bon, non, j'allais dire un mot un peu tarné, mais bon, je vais pas le dire, vous le comprenez, je crois. Voilà. Hein? Mais c'est la confusion. Il y a de tout. Et il ne nous est pas dit que Abraham connaissait Dieu, qu'il avait entendu parler de ce Dieu seul, souverain, grand. Moi, a priori, je pense qu'Abraham ne le connaissait pas. Il vivait dans un contexte où il n'était pas question de ce Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. Et j'aimerais voir avec vous, pour terminer, comment Dieu va se révéler à lui dans ce contexte-là. Et c'est important parce que aujourd'hui, on est dans ce monde où il y a tellement et tellement de choses, tellement de prédicants, j'allais dire, oui, ça c'est un mot ancien, hein, de prédicateurs de toutes sortes. Quand je dis prédicateur, c'est un sens large, hein, très très large d'ailleurs. Mais Dieu va se révéler à Abraham comme le Dieu tout-puissant. On l'a entendu ce matin, hein, bien sûr qu'on l'a entendu dans les paroles, dans les louanges. Genèse chapitre 17. Verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, donc c'est un peu plus tard, hein, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Abraham avait déjà bien manifesté sa foi dans ce Dieu-là, hein, puisqu'il avait quitté quand même, il était parti, comme cela lui avait été demandé. Et il se trouve que Dieu va se révéler à Abraham de cette manière, en lui disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant », un peu avant de lui annoncer qu'il va lui accorder une postérité. Alors qu'il a 99 ans, quand il aura son enfance, il aura 100 ans et Sarah 90 ans, nous le savons pour la plupart. Et Abraham, on l'a lu tout à l'heure dans Hébreux, il a cru à ce Dieu Tout-Puissant. Et je voudrais dire ce matin que même si c'est pas le courant du monde, mais tant pis, n'en déplaise à ceux qui pensent autrement, nous aussi, nous voulons croire dans ce Dieu Tout-Puissant. Nous croyons dans ce Dieu Tout-Puissant qui a pu agir dans le corps d'Abraham et faire des miracles dans le corps de Sarah. Le Seigneur Tout-Puissant peut faire des miracles dans nos vies aussi. Et je ne parle pas que de miracles physiques, je ne parle pas que de santé. Bien sûr que Dieu peut le faire. Mais il peut faire des miracles en nous, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre compréhension. Pour que cette marche par la foi, elle aille grandissant. Pour que notre compréhension de sa volonté dans notre vie puisse grandir. Pour que notre obéissance puisse grandir aussi. Dieu peut faire ses miracles dans nos vies, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu est grand. Dieu est très grand. Alléluia. Un peu plus loin, au chapitre 21 et au verset 33, voyez, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce que nous révèle la parole de Dieu. La marche de la foi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on apprend au fur et à mesure. Voyez, je sais certainement plus de choses que quand j'avais 10 ans, puisque j'ai été touché dans mon cœur quand j'étais un enfant. Mais plus j'avance et plus je me dis que moins j'en connais. Vous êtes déjà allé à la montagne, peut-être pour la plupart d'entre vous. Quand on est loin de la montagne, on est content, on la voit, là, elle n'est pas si haute que ça quand même. Hein. Mais au fur et à mesure qu'on avance, Et quand on a le sac à dos sur le dos, là, on s'aperçoit qu'elle est haute quand même, la montagne. Plus on avance. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui de plus en plus. Plus j'avance, et j'ai l'impression que moins j'en connais. Parce que Dieu est tellement grand. Que son nom soit béni, parce qu'il se révèle quand même au fur et à mesure de notre marche. Il se révélerait d'un coup au début, je crois que il nous écraserait. On pourrait pas supporter. Hein? Genèse 21, verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité, El Olam. Et dans ce mot, dans ces deux mots, El Olam, il y a deux racines. Il y a la racine du mot caché, mais quelque chose qui est caché en fait, qui est inaccessible, comme ce Dieu dans lequel nous croyons, mais qui se révèle à celui qui le cherche. Et puis, il y a cette notion d'indéfini, dans le temps. Donc, c'est pour ça que ça a été traduit par le Dieu éternel, le Dieu de l'éternité. Et c'est extraordinaire, ce Dieu qui est si grand, qui est caché à nos yeux, mais plus qu'à nos yeux, à notre esprit, à notre compréhension. Ce Dieu éternel, qui est de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, ce Dieu se révèle à nous. Il s'est révélé à nous, mais il ne cesse de se révéler à nous selon notre foi, selon notre désir. Et puis, je ne l'ai pas pris dans l'ordre, mais j'ai dû le faire exprès. Genèse, chapitre 14, et verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, c'est après qu'il ait délivré Lot, je crois. Oui, c'est ça. Donc 14, verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Ce Dieu qui s'est révélé à Abraham et dans lequel Abraham a mis sa foi, c'est ce Dieu qui est très haut, qui est créateur de toute chose. Il est l'auteur, il est gouverneur, il est possesseur de l'univers. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Moi, je suis surpris aujourd'hui. Je suis surpris. Je crois ce que dit la parole de Dieu. C'est que le Dieu de ce siècle, Satan, aveugle l'intelligence des hommes. Mais je suis surpris quand même de la connaissance qu'il y a aujourd'hui, de tout ce qu'on peut expliquer, de tout ce qu'on découvre au niveau de la nature, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de la foison de ce qui existe dans la création, des insectes, des animaux, des fleurs, des plantes. Mais c'est extraordinaire. Mais tout ça, eh bien, je vous l'annonce aujourd'hui, ça s'est fait tout seul. Voilà. Mais je me dis, mais comment on peut ne pas croire dans ce Dieu si grand qui a tout créé? Et c'est ce Dieu que nous aimons, ce Dieu si grand qui a tout créé. Alléluia. La nature, la terre, dit la gloire de Dieu. Et puis je termine avec le chapitre 18 et le verset 25. Voilà, alors qu'Abraham intercède pour Lot, pour Sodome et Gomorre, s'il y avait des justes dans cette ville, il dira ceci. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Alléluia. Et moi aussi, quand je dis moi, je parle pour nous, hein, je parle pour celui qui croit. Moi aussi, je crois dans ce Dieu juste, le juste juge. Et je crois que c'est important pour nous aujourd'hui. On sait tout en temps réel. On sait ce qui se passe dans notre pays. On sait ce qui se passe là-bas, à l'extrémité de la terre. On sait tout. Je ne sais pas si on le sait d'une manière véritable, vraiment juste. J'ai beaucoup de doutes sur beaucoup de choses, mais on sait quand même. On sait beaucoup de choses quand même. Et parfois, notre cœur s'émeut. Parfois, il y a de la colère. Parfois, il y a des sentiments d'injustice. Mais je crois dans ce Dieu qui est juste et qui, un jour, même si parfois je me dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire? Mais ce Dieu qui est juste va juger. Il va juger cette terre. Il va juger chacun des humains. Mais à la limite, je dirais, comme je le disais à un ami un jour, il est juste. Je ne veux pas m'intéresser aux autres. Je ne veux pas même m'intéresser à mon frère ou à ma sœur en Christ. Mais je veux m'intéresser à moi. Parce qu'il va me juger à moi aussi. Et je crois dans ce Dieu, le juste juge. Et je veux être trouvé devant lui, juste, justifié par Jésus-Christ. Et c'est ça qui doit aussi être dans mon cœur et dans ma foi. Et je crois dans ce seul Dieu qui m'a appelé. Ma confiance est en lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si, je l'ai dit tout à l'heure, on est faible, parfois on ralentit dans notre marche, on s'arrête, on sait que c'est difficile. Eh bien, parce que j'ai foi en lui, parce que je marche quand même vers le but, alors comme Abraham, ma foi sera comptée comme justice. Alléluia, alléluia. Et ça, ça doit être notre certitude à tous. Le Seigneur vient bientôt. Il vient nous chercher sur les nuées du ciel. Alors, gardons cette foi. Souvenons-nous de ce qu'est ce départ. Après, on pourrait en parler de la foi et de la marche d'Abraham et de tout ce qu'il a vécu. Il y a tellement de choses à dire. Mais je veux terminer par ce verset de l'apôtre Paul, de Timothée. Je vous le cite, chapitre 4, verset 7. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Et non seulement à moi, dit Paul, mais à nous. Il ne dit pas comme ça, hein. Il dit à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide dans ce monde de confusion. Que le Seigneur nous aide. Nous avons la foi dans le seul Dieu unique, tout puissant. Alléluia. Et il peut vraiment faire des choses infiniment au-delà dans notre vie, dans notre cœur, de ce que nous pouvons penser. Alléluia. Que son nom soit béni. Notre Père Céleste, nous avons confiance en toi. Nous sommes petits. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous sommes des humains. Et toi, tu es Dieu. Mais tu t'es révélé à nous comme ce Dieu plein de grâce, plein d'amour. Tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés dans le sang de Christ. Et Seigneur, nous sommes heureux de marcher avec toi. Nous sommes heureux parce qu'au fil des jours, des mois et des années, tu nous apprends. Tu es patient avec nous et tu nous conduis jusque dans l'éternité, jusque dans cette patrie céleste. Oh, que ton nom soit béni. Seigneur, aide-nous pour autant à ne pas mépriser celui qui est à côté de nous, dans notre famille par exemple, ou autre, et qui n'a pas compris, Seigneur, encore, qui n'a pas compris cet appel pressant. Nous voulons quand même, Seigneur, l'aimer et prier pour lui ou pour elle. Mais nous voulons t'obéir, Seigneur, pour notre part, personnellement. Et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.